Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview depuis le showroom intergalactique. Je suis avec the one and only Jean-Baptiste Hardy. Jean-Baptiste, comment est-ce que ça va bien ce matin?
Eh bien, ça va bien ce matin. Ça super, ouais. Très content d'être là, finalement.
Bah oui, tout à fait. On s'était vu en acoustique à Issoudun, c'était il y a 2 ans, hein, c'est ça? On a fait la première interview.
C'était l'an passé.
Oui, c'était l'an passé, oui, excuse-moi. Donc il y a deux éditions, pas cette édition-là, mais l'édition précédente, c'est bien ça, hein?
Ouais.
Ouais, d'accord. Quoi de neuf depuis enfin, on s'est revu à Issoudun cette année où là, cette fois, tu as joué en électrique, c'est ça?
Ouais, ouais, exactement. Bah, j'ai même fait les deux puisque cette année, j'ai fait toute la tournée des concerts à la maison.
Ah oui, exact.
Seul en acoustique avec quelques morceaux avec l'électrique. Mais,
ouais.
Et en plus, avec le trio, donc ouais, tout électrique, tout sur la télé en ouverture du festival. Donc,
d'accord.
Chouette édition pour moi cette année.
Comment ça s'est passé les concerts à la maison? Donc les concerts à la maison, pour rappel, tu te trimbales chez les gens, c'est des petits concerts où il y a quoi, 5, 10, 15, 20 personnes?
Alors,
et puis les spectateurs sont là à 1m50 de toi, quoi. C'est chez les gens, quoi.
C'est chez les gens, ouais. Ou alors ça a été aussi dans des mairies ou des assos de petits villages autour, ouais. qui organisent ça. Et je crois que le minimum pour qu'un concert soit organisé, c'est 20 personnes.
D'accord.
Donc il n'y a pas eu en dessous de 20 personnes et c'est monté jusqu'à 50 quand même.
D'accord. Ah oui,
donc
okay.
C'était quand même des vrais petits concerts.
Et alors ça fait quoi comme différence par rapport à avoir peut-être une distance un peu plus importante quand on est sur une scène, peut-être un peu surélevée, etc.
Bah c'est... Effectivement, juste ce côté distance, au début, c'est un petit peu déstabilisant. Ça m'est arrivé d'avoir des gens au premier rang à 1 mètre qui tapent du pied juste devant toi. Ouais.
À contre-temps ou...
Bah, pas toujours en même temps que moi, en tout cas, ouais. Et puis non, surtout, c'est l'entrée. Enfin, dire en étant à 1 mètre des gens, bon, bah, maintenant ça commence. Et puis la sortie, bon, bah, voilà, maintenant c'est fini. Bah, sans... mais en fait, ça s'est fait à chaque fois assez naturellement. C'est sûr qu'il y a une certaine complicité, une atmosphère un petit peu plus confidentielle qui se crée, qui est super agréable.
C'est intimidant ou finalement c'est plus facile ou c'est plus difficile?
Je dirais pas que c'est plus... Bah, ce que je trouve plus difficile de toute façon, c'est d'être tout seul face à un public par rapport au trio ou par rapport au groupe en général. Mais après, non, c'est pas... Enfin, je pense qu'on s'y fait.
Ouais.
C'était quand même moins intimidant au dernier concert à la maison qu'au premier.
Ouais.
Mais oui, il faut un petit temps pour que ça se mette en route, mais ça s'est fait assez naturellement.
Donc lors de notre première interview, donc l'an dernier, donc à Issoudun, donc 2018, on avait fait une interview donc guitare acoustique à la main. Tu étais venu avec une guitare corde nylon. Donc là, on va explorer ton côté électrique. Donc toi, tu fais partie des musiciens qui n'ont pas voulu choisir, c'est ça? T'as pas choisi ton camp?
Non, exactement.
Ouais.
Et même, je cultive mon éclectisme. J'essaie de ne pas me fermer de porte et de jouer un maximum de choses. Et du coup, après, bah, de produire de la musique qui reflète un petit peu tout ce que j'aime bien, tous les mélanges que j'ai pu écouter et jouer. Et j'espère que ça s'entend.
D'accord. C'est qui les guitaristes électriques que tu mets dans ton panthéon, ton top 3?
Mon top 3, ça, ouais. C'est compliqué. Eh ben... Benson, Scofield et le troisième, je vais dire Mark Knopfler.
D'accord, ok, très bien. Le premier riff de guitare que tu as joué, la guitare électrique, c'était quoi?
Bah justement, peut-être.
Tens of Swing.
Ouais, je pense. Enfin, c'était soit ça, soit un truc de Creedence Clearwater Revival aussi, parce que c'était mon groupe de prédilection quand j'étais petit, ça.
Ah ouais. Et d'un point de vue choix de guitare, toujours Telecaster?
Alors, j'ai toujours aimé la Telecaster, et puis ma femme m'a trouvé celle-ci, elle m'a fait un beau cadeau, j'ai eu de la chance. Mais avant, mon père, il avait une Epiphone 335, donc je me suis fait plutôt là-dessus.
D'accord.
Et après, avant ma télé, non, j'ai eu une bonne période que jazz, plutôt bebop, j'ai eu une Arctop, une Godin 5e Avenue.
Ah oui, d'accord, ouais. Avec un P90, c'est ça?
Ouais, exactement. Et j'ai enregistré mon premier CD avec cette guitare.
D'accord. Et là, ça, c'est quoi? C'est une américaine, une Telecaster standard ou une
Alors,
custom
en
shop?
fait,
Qu'est-ce que c'est?
c'est une unique au monde parce que j'ai acheté ça à un gars dont la passion c'était de construire les guitares. Il a acheté toutes les pièces détachées chez Fender et il a fait ça
D'accord.
tout seul chez lui.
Ok.
Donc,
Donc, y
il a
compris
pris
la
des
finition
éléments
ou la finition,
de.
la couleur était déjà comme ça?
Non, la couleur était déjà comme ça. Il a pris un corps et un manche du modèle relique, d'où l'effet un petit peu vieux vintage, mais qui est faux en fait.
Ouais.
Et il a mis par contre, des vrais Seymour Duncan vintage ici. Et puis, alors je sais parce que j'ai pas eu le détail de tous les machins, et puis ça commence à faire longtemps, donc je sais pas exactement quelle pièce. Je sais que tout est Fender. Et lui, il avait tout acheté aux US, donc ça doit être tout US. Et voilà.
D'accord. Et donc c'est ta guitare électrique numéro 1.
Ouais, depuis quelque temps. Depuis que j'ai fait ce projet, justement, où je suis sorti un petit peu du jazz pour mixer un peu, revenir un petit peu plus au blues, mettre plus de funk et des trucs un peu rock et plus. Plus électrique, ça s'y prêtait mieux. C'est aussi une période où je suis passé de. Je jouais pas mal avec un contrebassiste il y a 3-4 ans, et puis il fallait un bassiste électrique. Donc voilà, quelque chose d'un petit peu plus. Un trio jazz, mais un peu plus rock, on va
D'accord.
dire.
Alors parlons, alors transition toute trouvée. Moi, cette année à Issoudun, tu jouais sur la scène du café, du Datgat Café,
Ouais.
hein, c'est ça. Donc, j'allais dire la scène ouverte, enfin, en tout cas la scène qui est en libre accès pour le public. Et j'ai bien kiffé ce que j'ai entendu, ça groovait bien, etc. Donc, purement instrumental et donc avec une formation batteur et puis bassiste électrique, hein, c'est ça?
Ouais,
Ouais.
exactement.
Comment tu abordes la composition entre le jeu et la guitare électrique et ce que tu fais en acoustique?
Ça, c'est une bonne question que je me pose souvent
D'accord.
parce que.
Et pas de bol, je te la pose encore ce matin.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'au départ, en fait, ça dépend comment me vient le morceau. Si ça vient directement avec un mouvement en picking ou quelque chose d'harmonisé qui va ressembler plus au classique, et que je peux, si j'arrive à rendre la guitare suffisante, si je peux me permettre, et que ça donne quelque chose de joli et satisfaisant, je vais peut-être plutôt privilégier la guitare acoustique. Mais si j'arrive pas assez à remplir, à meubler et à faire quelque chose de joli avec une guitare seule, je vais demander au trio. Et souvent,
D'accord.
si j'ai une mélodie qui me vient seule, et puis je vais la penser avec un rythme, soit funk, soit plutôt latin, soit swing. Et ça, c'est vrai que moi, je peux pas faire ça tout seul avec la guitare. Alors que les gars, première répète, je leur dis, bon, j'ai ça, ça sonne, j'aimerais que ce soit plutôt latin. Et puis tout de suite, ils font sonner le truc à peu près comme je l'imaginais, ou si c'est pas comme je l'imaginais, c'est mieux que ce que j'imaginais. Donc
D'accord.
ça, du coup, ça finit quand même assez souvent en trio.
Est-ce que tu pourrais décomposer une des chansons donc, qui est sur le dernier album, c'est ça, c'est le dernier album, hein, qui est plutôt électrique?
Ouais,
Il s'appelle, redis-moi,
reprise,
Reprise, d'accord.
exactement.
Qui ne sont pas des reprises d'ailleurs.
Non, oui,
D'accord.
c'est peut-être une erreur
Ouais.
marketing. J'ai pas mon conseiller com a mal joué le coup. Non, c'est que des compos.
D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un peu d'archéologie musicale et nous faire voyager sur une des chansons et nous faire écouter peut-être ce qu'a été l'idée initiale d'une des chansons et nous expliquer, nous jouer comment ça a évolué?
Ouais, pas de
Ouais,
problème.
il peut le faire?
Ouais, je vais essayer de. Je vais prendre le titre de l'album Reprise, justement, où le riff principal, et c'est là qu'on voit que, donc même si on nous présente comme un trio de jazz, je pense que les origines, je m'en suis rendu compte même après après l'avoir enregistré, après l'avoir joué plein de fois, mais c'est un mélange du riff de Fortunate Son de Creedence
D'accord.
et de After Midnight de J.J. Cale.
D'accord,
Donc
ok.
After Midnight qui fait. Quelque chose comme ça.
Ouais.
Et le truc de Fortunate Son, je sais plus très bien, mais. Enfin, c'est pas exactement ça, mais plus ou moins.
On voit
Et
l'esprit.
donc le morceau, ça donne. Sur une rythmique. C'est même le moment d'utiliser la loupe.
D'accord.
Donc
La boucle est enregistrée donc. C'est ça le problème quand on met une pédale dans les mains d'un musicien qui connaît pas la pédale. C'est toujours le bouton d'à côté sur lequel il faut taper.
Donc, ça a donné une idée générale en tout cas.
Et donc le morceau, donc ça a commencé avec une séquence d'accords ou alors avec le petit thème que tu as joué
non,
ou
le
non
petit thème.
Le petit thème.
Exactement.
Ouais.
Enfin sur le CD, c'est même c'est une intro de batterie et après le on part ensemble avec le bassiste.
D'accord.
Mais bon, il y a un refrain aussi. J'ai pas tout enregistré. Et en fait, au départ, je l'ai appelé reprise parce que c'est une boucle qui revient tout le temps, qu'on répète en la faisant un petit peu monter en intensité. Et en musique, quand il n'y a qu'une ligne avec deux traits et deux points à la fin, ça s'appelle une reprise.
D'accord, ok. Et à quel moment tu t'es dit, ça y est, la chanson, elle est prête à être enregistrée, c'est fini ?
Eh ben, alors ça c'est celle-ci et les autres, ça vient après un certain nombre de répétitions qui a été finalement assez rapide quand même avec les deux musiciens. Ça, tout s'est mis en place assez vite et une fois que ça tourne et qu'eux sont ok et qu'on se met quand même d'accord sur les structures, sur les intros, comment on termine, etc., s'il faut ajouter, enlever des choses, et une fois qu'on est tous d'accord, on y va.
D'accord. Et la structure, elle est super carrée, tout ça, et puis y compris la plage d'improvisation, où il n'y a pas d'improvisation, pas de place à l'improvisation ?
Ah si. Ah bah dans tous les morceaux, ouais. C'est un peu ça qui fait notre identité. Mm-hmm. C'est là qu'on arrive à faire un petit peu monter la sauce ou varier les couleurs de manière différente à chaque concert. Et par contre, les créneaux d'impro pour enregistrer, ils sont forcément précisés.
Ouais.
On se dit 2 grilles chacun, ou 2 grilles moi, 3 grilles trois. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il faut que ce soit carré, y compris pour les solos du batteur qui a un petit peu de place quand même. Et après, par contre, en live, là, selon le temps de jeu,
d'accord.
Et selon, mais on fait, ou selon l'inspiration de chacun, on fait un petit peu ce qu'on veut.
D'accord. Et le langage, à ce moment-là, pour communiquer, c'est tu fais des clins d'œil, tu as des signes, tu donnes des coups de latte. Comment ça se passe pour se retrouver au tas de sable ?
Là, c'est là où on voit que ça tourne bien, c'est on se regarde juste et c'est bon, on sait quoi.
Okay.
Quand on commence, quand ça se finit. Et quand on lance des 4-4 aussi, c'est le fait d'alterner un tout petit bout de solo sur 4 mesures seulement. Guitare, batterie, basse, batterie, guitare, batterie, basse, batterie.
D'accord. Et puis donc, ça fait le tour comme ça, tu veux dire ? Quand
ouais,
tu dis
4-4, ouais.
C'est 4 mesures chacun, tac-tac. Et
exactement.
C'est toi qui récupères le jeton et après...
Au moment, si ça termine, pareil, on se regarde et je dis que je reprends le thème quand c'est l'heure de reprendre le thème.
D'accord.
Voilà.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres manières de composer que tu as utilisées ou c'est un peu toujours pareil ?
C'est vraiment morceau par morceau. Il y a j'ai un petit enregistreur sur mon téléphone où parfois j'enregistre des mélodies dedans parce que j'ai peur de les oublier.
Ouais.
Et puis il y a eu des compos qui sont venus comme ça. Il y a des compos qui viennent à force d'improviser ou alors de jouer sur un morceau. Puis on se rend compte qu'il y a autre chose, une mélodie qui sort un petit peu des solos et qu'on arrive à exploiter. Il y a des en chantant aussi ou en écoutant d'autres musiques.
D'accord.
Ça va et ça vient.
Ok. Quelle est ton approche de l'improvisation ? Comment tu as développé ton vocabulaire ?
Alors, j'ai commencé à improviser du coup sur des trucs plus rock, plus blues, sans me poser aucune question théorique. Et rapidement, j'ai maîtrisé gamme majeure, gamme mineure et puis la pentatonique. Mais sans, enfin voilà, je savais juste que cette case allait être bonne et celle d'à côté pas bonne et sans trop savoir pourquoi. Et puis, quand je me suis mis au jazz, où là, il fallait que j'improvise sur des grilles où les accords changent beaucoup plus rapidement, où il y a des changements de tonalité, il fallait que je comprenne un peu plus ce que je joue et que je me perde pas, ce qui peut encore être un petit souci. Mais donc là, je suis rentré dans tout ce qui est les modes, je ne sais pas si ça te parle, mais tout ce qui est dorien, mixolydien, lydien, etc. Et où là, je pense comme tout guitariste ou enfin même improvisateur des autres instruments, on a l'impression qu'on régresse parce que avant, on se sentait un petit peu libre quand on jouait, et là, on joue de manière très scolaire en recargeant ce qu'on a appris. Et puis ça prend un petit peu de temps de faire mûrir un peu tout ça. Et aujourd'hui, j'essaie de mixer ça, d'explorer un petit peu différentes gammes. Là, je vais jouer plutôt mixolydien, là, plutôt mixolydien avec la carte augmentée. Mais de moins en moins, en réfléchissant comme ça sera plus justement en fonction de la mélodie ou de. Enfin, je réfléchis plus de manière théorique, quoi. Et puis, j'ai plus le temps. Enfin, je veux dire, dans les morceaux, à partir du moment où on arrive à s'écarter de ça et à ce que ça devienne un petit peu naturel.
À partir du moment où c'est intégré dans ton vocabulaire, en fait, quoi.
Exactement. Et après, le danger, c'est bien que tu emploies ce mot-là parce que c'est d'utiliser toujours les mêmes phrases ou le même vocabulaire. Et ça, à force d'écouter plein de guitaristes, on se rend compte que tous les guitaristes ont leurs phrases préférées, leurs petits gimmicks et leurs trucs. Donc c'est bien d'en avoir parce que ça fait un petit peu notre propre identité. Maintenant, si on les lâche tous à chaque morceau, à chaque impro, les gens se disent, c'est vraiment de l'impro parce que ça fait 3 fois qu'on a le même solo quand
Cette
même.
phrase me dit quelque chose, là, j'ai pas entendu, il y a deux
Donc
morceaux,
la
ça.
difficulté aussi, c'est de se renouveler et d'essayer de sortir un petit peu des schémas qu'on a.
Et t'as des
Voilà.
trucs à ce moment-là pour te t'auto-botter le cul, là, pour sortir de tes chemins battus?
Ouais, déjà se mettre à chanter un peu ce qu'on joue, même si ça suit plus le mouvement que l'inverse. Alors l'accession ultime, c'est le niveau des gens comme Biréli Lagrène qui eux, ils ont un truc en tête, ils le retransmettent en direct à la seconde sur même au dixième de seconde sur leur guitare. Moi, j'en suis pas là. Mais le fait de faire on sait beaucoup plus où on va et on a quelque chose de beaucoup plus mélodique, donc les notes vont nous venir plus facilement et on va beaucoup plus jouer en fonction de la musique qu'en fonction des emplacements sur le manche. Et après, on se dit juste qu'on va partir d'une note qui n'est pas celle de laquelle on part d'habitude, ou au lieu de prendre comme squelette cet accord de Do majeur par exemple.
Mets-nous un peu de son.
C'est vrai, c'est mieux. Et je vais partir d'ici, par exemple.
Donc genre une inversion, c'est ça ou
Ouais, exactement. Moi, j'essaie de. Il faut savoir faire des accords un petit peu partout sur le manche pour n'importe quel accord. Et ce qui permet de faire démarrer son solo toujours dans une même tonalité pour un même accord à n'importe quel endroit du manche. Donc, on va se dire, là, je suis souvent un peu trop dans les aigus, donc je vais essayer de faire quelque chose un petit peu dans les graves. Voilà. Mais tout ça, encore une fois, c'est vraiment important d'y passer du temps et de le travailler, justement, peut-être au looper, de manière très scolaire, chez soi. Mais il faut arriver à un stade où on se détache de tout ça et où on n'est plus trop dans la réflexion. Il faut que ça aille avec la musique qu'on est en train de jouer aussi, quoi.
Le fait de chanter ce que tu joues, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler parce qu'on se dit bah ouais, bon sang, mais c'est bien sûr, faut faire ça, ça a l'air fastoche. Puis quand on entend ou quand on voit Benson en train de jouer comme ça, on se dit bah ouais, oui, ça a l'air tellement facile, mais arriver à raccourcir le chemin entre son cerveau et ses doigts et que ça soit pas les doigts qui guident le cerveau, ça se travaille, j'imagine.
Oui. Mais même le, moi, je... enfin, je suis encore en train de le travailler. D'ailleurs, je le fais pas du tout tout le temps et pas assez. Et puis aussi, faut pas être trop près du micro si on n'est pas très à l'aise avec sa voix, parce qu'il y a des guitaristes chez qui la voix est presque un peu envahissante quand ils commencent à le faire. Mais après, c'est qu'un exemple, hein. C'est une méthode qui marche avec moi. Chacun a ses pistes et ses petits trucs qui lui parlent plus ou moins. Moi, je sais que ça me donne vraiment un fil conducteur.
Est-ce que tu as des exercices que tu travailles justement? Enfin, comment travailles-tu l'instrument? Ou travailles-tu l'instrument d'abord?
Oui, j'essaie de travailler quand même encore l'instrument. C'est même sans fin. Il faut, justement, le ça va être travailler. Parfois, il y a des jours où je vais travailler plus mes inversions, des nouveaux endroits pour un accord. Ou au lieu de le jouer sur les 4 cordes du milieu, je vais jouer avec la basse sur la corde 6 et sur les 3 cordes aiguës après. Pareil en cherchant d'autres endroits. Il y a d'autres jours où je vais faire que de la technique, toute la série des exercices 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 1 sur toutes les cordes.
Ah oui, pour travailler un peu l'indépendance de la main gauche. L'indépendance.
Exactement. Ouais. Ça, j'en fais régulièrement. C'est des exercices qui sont valables, qu'on soit débutant, dès qu'on touche une guitare, ou même au bout de 20 ans de pratique de guitare, sans avoir rien à connaître en solfège. C'est vraiment quelque chose qui rend les doigts autonomes les uns par rapport aux autres. Et après, des mouvements de main droite. Comme j'ai aussi toute une part classique, picking, où j'ai besoin d'entretenir un petit peu la technique main droite, de tout ce qui est en classique, les arpèges de Carlivaro, ces trucs-là, ou pareil, des gammes soit au médiator, soit pouce index. Parce que ça, c'est une des particularités de mon jeu. C'est ça que j'aime bien aussi chez Mark Knopfler, c'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure, c'est qu'il a un jeu et un son unique, parce qu'il joue avec les doigts. Alors, son idole, c'est Chet Atkins, pour la petite histoire. Hein. Mais j'ai hésité à citer l'un ou l'autre, mais comme ça me permet de faire les deux.
Et, deux pour le prix d'un.
Exactement.
Et donc, du coup, technique main droite, là, je vois que tu as un onglet, c'est toujours comme ça?
C'est toujours comme ça. Alors, je joue dans un trio manouche aussi, qui s'appelle Les Frères Bouchard, et où là, pas le choix, tu joues avec un médiateur.
C'est interdit l'onglet, là, sinon. Ouais.
Ah c'est, si on veut avoir un son qui ressemble à un petit peu à du manouche, il faut avoir un médiator et puis plus costaud que ça. Quoi. Mmh. Ce qui a été difficile au début, parce que quand on est habitué à ça, on n'a pas besoin de le tenir, il tient tout seul. Et le médiator, du coup, il tombait tout le temps. Maintenant, ça va. Mais l'avantage de ça, c'est que quand j'ai envie de sentir... d'appuyer un petit peu plus les notes, je vais jouer comme un médiator. Mmh. Et puis... Un petit peu plus de douceur, de rondeur ou de toucher avec les doigts. Et notamment quand c'est... Si j'ai des choses à jouer sur plusieurs cordes, des cartes sur trois cordes ou sur... tu vois, typiquement le... Ce truc-là. Pour moi, c'est beaucoup moins risqué de le jouer avec les doigts. Juste parce que j'ai une corde au milieu, tu vois, au médiator, je pourrais... Donc je choisis, pareil, sans trop réfléchir, mais avec ça, j'ai la possibilité de jouer au médiator et avec les doigts si je veux.
D'accord. Et donc, de fait, ta technique de main droite, elle est à peu près la même en acoustique qu'en électrique?
Ouais.
Ouais, d'accord.
Ah après, quand je fais des solos et des improvisations, mais en acoustique, après, si je joue des choses... Comme ça, le pouce, il est dédié au basque.
Ah ouais, d'accord. Mais c'est avec le thumb pick toujours.
Ah oui, toujours le thumb pick. Exactement. Ouais.
Okay. Génial. On est en décembre 2019. C'est quoi les projets pour Jean-Baptiste Hardy pour 2020?
J'ai quelques concerts, quelques petits festivals ou des trucs prévus, soit la partie solo un peu plus acoustique, d'accord, soit avec le trio. On s'est dit à notre dernière répète que ça serait bien de faire un autre CD, donc peut-être un enregistrement pour 2020.
Excellent.
On commence à avoir les morceaux pour le faire, donc si on peut, on ne va pas se priver. Et puis ce trio manouche aussi, donc les frères Bouchard, avec lesquels on joue et on tourne pas mal aussi, donc voilà.
On reprend les grands standards de Django, choses comme ça, des compositions
Django, alors des arrangements de la chanson française en manouche aussi, de certaines musiques du monde, et puis des compositions. D'accord. Et d'ailleurs, album prévu pour 2020 également, d'accord, avec ce trio. Bon. Donc une année 2020 qui sera un bon cru, j'espère.
Parfait. Bon, donc on aura fait une interview en acoustique, une interview en électrique, il nous restera à faire une interview en manouche alors en 2020, alors, hein, c'est un rendez-vous.
Ça marche, c'est okay. Pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Super, écoute Jean-Baptiste, j'étais ravi de t'avoir ici au showroom et puis tout plein de bonnes vibrations pour la suite. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi Pierre, bonne journée.
Ciao.